Merci beaucoup, Anne. Et bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être là parmi vous ce matin. Alors, vous voyez, mes cheveux poussent. Il faut que je prenne le temps d'aller chez le coiffeur. Ça, c'est l'effet confinement-déconfinement. J'ai un thème ce matin à cœur. Et pour vous l'introduire, j'ai pensé évoquer un souvenir. Alors, je pensais vous amener, et puis j'ai pas pensé en partant, mais je pensais vous amener. Trois objets. Un paquet de pâtes, une boîte d'œufs et puis un rouleau de papier toilette. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque un souvenir. Les rayons vides dans les supermarchés, peut-être une chasse un peu frénétique pour ces indispensables, surtout papier toilette. Je me rappelle, ma sœur avait posté sur Facebook un rouleau de papier toilette en disant « ça vaut de l'or à Marseille ». Alors, on a vécu ces dernières semaines, des semaines un peu folles en fait, et on a vu et peut-être même on a eu, je dirais, des comportements de survivalistes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, les survivalistes, vous savez, ce sont ces personnes qui sont convaincues d'une fin du monde ou au moins d'un chaos imminent, de la fin du système, de l'effondrement du système. Et puis ces gens, ils se préparent. Alors aux États-Unis, c'est assez fort. Et apparemment, ça vient en France. J'ai vu quelques vidéos cette semaine et il y a des gens qui sont très sérieux avec ça. Et avec ces rayons vides, avec ces denrées qui commençaient à manquer, j'ose dire qu'on a eu au moins une tentation des pensées de survivalistes. Faire des réserves au cas où vraiment ça déraille. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Et je me suis mis à réfléchir sur l'inverse du survivalisme. Et j'ai pensé au mot sacrifice. Vous savez, le survivaliste, c'est celui qui veut sauver sa peau à tout prix. Et celui qui se sacrifie au contraire, eh bien, il donne un peu de sa vie et parfois à grand prix. Et le thème que je voudrais apporter ce matin, c'est le thème du sacrifice. Alors, c'est un peu bizarre, sacrifice, c'est pas trop à la mode comme mot, mais je crois que Dieu a vraiment une parole par rapport à cela et qui peut nous parler justement dans cette période où nous sommes. Le sacrifice, c'est quand nous renonçons à des choses de manière volontaire ou poussées par les circonstances, ou alors quand même nous perdons des choses et on peut le vivre comme un sacrifice. Dans ce qu'on vit depuis plusieurs mois, il y a eu de nombreux sacrifices. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui sont décédés, et puis je pense aussi à tous ces soignants qui sont aussi décédés en essayant de les soigner. Et puis ces mêmes soignants, et puis plein d'autres personnes, différents corps de métier, pendant cette crise, pendant ce confinement, ça a été le sacrifice de milliers d'heures sans sommeil, de ne pas voir leur famille, pas voir leur conjoint, et d'être tout le temps finalement sur le lieu de travail. Sacrifice. Et puis, malheureusement, tous les jours, on entend dans le fil des infos des faillites, des fermetures, des entreprises qui cessent, et des milliers de personnes, du coup, qui perdent leur emploi. Sacrifice. Sans compter toutes les baisses de salaire auxquelles nous sommes confrontés. Et dans les prochains mois à venir, on nous annonce encore des sacrifices à consentir, nécessaires pour redresser l'économie, travailler plus et relever ensemble le défi. Et aussi aider ceux qui ont souffert du confinement. Il y a des situations sociales et les acteurs dans le service social sont très alertés par ça. Le sacrifice peut être volontaire. Et dans ce cas-là, il est souvent grand, il est noble. Il y a quelque chose de beau dans un sacrifice qui est volontaire. Mais le sacrifice, il peut être aussi imposé. Imposé par des circonstances. On ne le choisit pas, mais on sait que c'est la réponse à donner. Et puis, le dernier cas, c'est un sacrifice qui est subi. On est sacrifié. On est sacrifié par d'autres. Je pense à la guerre, par exemple, où les soldats sont sacrifiés pour la nation. Parfois, les sacrifices ont une issue. C'est comme un investissement. Et là, je pensais aux parents qui peuvent se sacrifier pour leurs enfants, pour donner un avenir à leurs enfants. Mais parfois, il y a des sacrifices qui sont sans issue. On se sacrifie, on vit comme un sacrifice, mais il n'y a aucun horizon à la fin. Et là, j'ai pensé un exemple qui peut être un peu lointain, mais que je vais évoquer plusieurs fois dans cette prédication, c'est l'esclave. L'esclave dont la vie est sacrifiée pour le service des autres. Alors, je ne sais pas comment ce mot résonne en vous. C'est un mot étrange, on n'a pas trop l'habitude de l'employer, sacrifice. Et je ne sais pas s'il évoque pour vous des choses très concrètes dans votre vie. Peut-être que vous vivez déjà des sacrifices, ou peut-être qu'il y en a prochainement, au moins dans vos pensées et auxquelles vous vous préparez. Je pensais par exemple à une mère qui élève seule ses enfants. Il y a du sacrifice dans une vie comme cela. Et puis peut-être à cause de votre travail, de votre situation professionnelle, qui fait que peut-être vous allez travailler loin et puis il y a un sacrifice au niveau de votre vie de famille. Et peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été à un moment de votre vie, à un moment de votre parcours, comme sacrifié. Et on peut être résigné par rapport au sacrifice, on peut supporter, ou alors on peut être révolté par cette idée-là. Et je pense au mouvement des Gilets jaunes. Samedi dernier, j'étais en ville et on a vu les Gilets jaunes qui voulaient ressortir, qui voulaient remanifester à nouveau. Et je pense que ce qui anime toutes ces personnes, c'est cette... Il y a une colère qui sort, en fait, et cette pensée d'avoir été sacrifié ou d'être sacrifié pour un système. Et c'est insupportable. Alors, la question que je voudrais nous poser ce matin, c'est comment vivez-vous l'idée de sacrifice ? Et peut-être ceux que vous ressentez dans votre vie, ceux que vous observez dans votre vie, ou peut-être ceux qui sont à venir et qu'on nous annonce. Et mon exhortation ce matin, c'est qu'avec Dieu, je peux faire du sacrifice une clé. C'est que je n'ai pas nécessairement à le subir, je n'ai pas nécessairement à en être une victime. Mais le sacrifice peut devenir, si je le décide, une clé qui ouvre des choses dans ma vie. Et plutôt que de les subir, de laisser nourrir une colère en moi ou de m'en plaindre, ça peut être une clé de bénédiction. Et j'ai pensé à une image, c'est l'esclave dans la Bible, l'esclave dans le Nouveau Testament. On trouve ça en Éphésiens 6, où Paul exhorte les esclaves à servir leur maître comme s'ils servaient Dieu. En fait, à se comporter et à voir leur vie de servitude comme un service qu'ils rendent à Dieu, comme des disciples de Christ. Et ce texte est fort parce qu'il montre déjà que Dieu, en venant par Jésus-Christ, n'a pas bouleversé une situation profondément injuste et qui brise le cœur de Dieu, l'esclavage. Dieu n'a pas procédé comme cela, même si l'esclavage a été aboli par la suite. Mais Dieu a demandé aux esclaves de rester dans ce sacrifice et de le considérer, de le placer dans un sacrifice plus grand, c'est-à-dire le sacrifice envers Dieu. Et c'est cette image de l'esclave qui m'a parlé pour ce message que je vous donne maintenant, c'est d'inscrire les sacrifices de nos vies, que peut-être nous vivons mal, dans un sacrifice plus grand auquel Dieu nous appelle, c'est le sacrifice pour Dieu. Et le premier texte que je voudrais voir avec vous pour parler de cela, c'est en Romains 12, versets 1 à 2. Et je vais le lire. C'est Paul qui dit, donc il a présenté le salut, il a présenté l'évangile avec vraiment puissance en Romains de 1 à 8. Ensuite, il parle de 9 à 10 au sujet d'Israël et des nations. Et puis en Romains 12, il commence un peu la conclusion, la conséquence de tout son message sur le salut. Vous êtes sauvés. Et il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 à 2. Alors, les mots sont explicites, les mots sont très clairs. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et la première parole avec laquelle Paul amène cela, c'est par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Le sacrifice est présenté comme une suite logique au salut. Le sacrifice, c'est en fait la conséquence d'avoir reçu de manière si gratuite, comme Paul s'est attaché à le montrer, le salut. Et une fois que nous avons reçu en tant qu'être humain l'amour, la bonté, le pardon de Dieu, inconditionnel, indépendant de nos œuvres, eh bien Dieu nous demande de manière très claire, très explicite, offrez-moi vos corps en sacrifice. Après avoir reçu, nous sommes appelés à donner. Et le mot, il est peut-être un peu choquant, mais il interpelle. Il est là justement pour venir nous chercher. Es-tu, ce matin, considères-tu ta vie comme un sacrifice pour Dieu ? On peut se dire, oui, moi je suis chrétien, je vais à l'église, je fais plein de bonnes choses, mais est-ce que tu vois ta vie comme un sacrifice, avec ce mot, sacrifice pour Dieu ? Et je voudrais vraiment que tu te laisses travailler par le Saint-Esprit ce matin sur cette question-là. Le sacrifice est inhérent à la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'idée au centre d'un sacrifice. Le sacrifice, ici, Paul le présente non pas comme un effort, une flagellation, quelque chose que l'on doit et qu'on apporte à Dieu avec peine et larmes. Au contraire, le sacrifice présenté par Paul ici comme une réponse à l'amour de Dieu, par les compassions de Dieu. Et il nous invite à offrir ce sacrifice par l'amour. En fait, ayant reçu l'amour, ayant reçu le pardon total de Dieu immérité, je l'aime, je suis étonné, bouleversé par l'amour de Dieu pour moi. Et par cet amour, il y a un élan en moi qui naît et j'ai envie de lui offrir ma vie en sacrifice par les compassions de Dieu. Ça, c'est le vrai moteur, c'est le moteur biblique, c'est le moteur que Dieu place en nous pour offrir nos vies en sacrifice. L'amour que j'ai envers Dieu, c'est ça qui me pousse, c'est un acte d'amour. Le deuxième point, c'est que nous sommes invités à offrir un sacrifice à Dieu, pas aux hommes, pas aux puissants, pas ni même pas à l'église ou à une œuvre, à une entreprise. Nous sommes invités à offrir notre sacrifice à Dieu. Et c'est l'assurance que le sacrifice ne sera pas instrumentalisé. C'est l'assurance que, entre les mains de Dieu, notre sacrifice va être rendu utile, va être rendu fructueux, que Dieu fera un bon usage de ce qu'on lui donne. Et vous savez, Dieu qui a tout donné, Romains 8 le dit, il a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas tout à travers Jésus-Christ ? Et quand on lui donne un sacrifice de notre vie, eh bien Dieu honore cela. Et il fera en sorte que votre don, votre offrande, ce sacrifice que vous donnez à Dieu, aura une très grande valeur. Le sacrifice de votre vie touche Dieu. Et dans un sens, coûte aussi à Dieu, parce qu'il sait que vous renoncez à des choses, il sait que vous perdez des choses, mais pour lui. Il y a une précision dans ce texte qui est intéressante, c'est offrez vos corps, offrez votre corps en sacrifice. Alors, bien sûr, il ne s'agit surtout pas de se faire du mal, on n'est pas invité à faire comme Jésus, à aller sur une croix et à se faire clouer, donc ça ne parle pas de cela. Mais c'est pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice, vous savez, comme on est très fort en tant que chrétien de faire un sacrifice spirituel, c'est-à-dire intérieur. Mais finalement, ça reste à l'intérieur et ça ne s'exprime pas à l'extérieur. Et ça reste finalement très virtuel, très abstrait. Nous sommes invités, au contraire, nous sommes sollicités pour un sacrifice concret qui touche notre être entier et dont peut-être nous pouvons sentir l'impact dans notre corps ou dans nos biens matériels. Un sacrifice coûte. Ça fait partie, en fait, du sacrifice. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un classique, et je sais que les gens à clé, vous le connaissez, peut-être les gens à 7, vous ne le connaissez pas, l'histoire de la poule et du cochon qui veulent faire du bacon aux œufs, des œufs au bacon. Alors, je la raconte, je la fais courte. C'est pendant la guerre, il y a une ferme, et puis il y a des enfants qui sont seuls, abandonnés, et puis qui trouvent refuge dans une ferme, et ils sont affamés. Et là, tous les animaux de la ferme sont là, ils sont pleins de compassion et puis ils ont envie de les nourrir. Alors, il y a quelqu'un qui a une super idée, on va leur faire des œufs au bacon. Et là, la poule, elle saute de joie, elle est super contente. Ouais, génial, des œufs au bacon, des œufs au bacon. Et puis, il se tourne vers le cochon et là, le cochon, il ne saute pas de joie. Il ne saute pas de joie. Parce que le cochon, ça veut dire que ça va lui coûter une jambe ou ça va lui coûter quelque chose qui va vraiment lui faire mal. Le sacrifice coûte quelque chose. Et c'est ça qui le rend grand. C'est ça qui le rend beau. C'est que le sacrifice, c'est un renoncement. Alors, je me suis posé cette question, mais c'est étrange que Dieu nous demande de sacrifier notre corps. Pourquoi? Il aurait très bien pu nous dire, on peut lui offrir des sacrifices de louange, sacrifices, plein de choses. Mais pourquoi parler de notre corps? Et en fait, je pense qu'il y a la précision corps parce que Dieu nous montre que nous suivons pleinement Jésus-Christ en tant que chrétien. En tant que chrétien, nous avons un modèle pour notre vie et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a sacrifié son corps. Jésus-Christ a offert son corps à la croix. Et je crois qu'il y a là un lien qui nous parle, qui nous dit, mais de manière entière, avec toute votre vie, offrez-vous. Le sacrifice, c'est pas seulement le renoncement, la privation, vous savez, on accepte de mourir au péché. Alors, il y a d'autres passages qui nous parlent de ce que signifie le sacrifice, et je vais y venir d'ailleurs. Mais en tant que chrétien, faire mourir le vieil homme, faire mourir tout ce qui en nous nous pousse, nous attire vers les choses qui déplaisent à Dieu. Et cela, on s'engage avec le baptême à le faire mourir, à ne pas y répondre. Donc ça, c'est un sacrifice, une mort à soi, une mort à notre vie propre, indépendante de Dieu. Ça, c'est un premier pas du sacrifice, c'est mourir. Mais le sacrifice que Dieu demande ne s'arrête pas à mourir. Il va jusqu'à vivre. Vous êtes mort au péché et vous vivez pour Dieu. Et l'autre part du sacrifice, c'est d'aller jusqu'à vivre pour Dieu. Et il y a quelque chose d'énorme, en fait, en chacun de nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Il y a une puissance, il y a un potentiel énorme dans nos vies que seul le sacrifice peut libérer. Et si, tant que nous ne voulons pas vivre pleinement pour Dieu, peut-être on peut se contenter de renoncer à certaines choses et puis de faire comme un deal avec Dieu, de dire voilà, je t'ai donné ça, ça devrait te suffire, écoute, contente-toi-en. Mais Dieu veut tout de nous. Puisqu'il nous a tout donné, il nous demande tout. Mais ce tout, c'est par un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous aime. Et donc ce tout va nous épanouir. Et c'est d'ailleurs là un paradoxe. Quand on offre un sacrifice à Dieu, cela ne nous détruit pas. Mais cela, au contraire, nous épanouit. Nous y gagnons, en fait, à nous offrir à Dieu en sacrifice, au lieu d'y perdre. Parce que le sacrifice, en fait, libère le plein potentiel, le vrai toine, la vraie personne que vous êtes. Le sacrifice le libère, parce que vous êtes des images, nous sommes chacun des images de Dieu, et c'est le sacrifice qui nous reconnecte à Dieu, qui nous reconnecte particulièrement à Jésus-Christ, et qui fait que cette image jaillit et se met à vivre, vivre pour Dieu. Alors, sacrifice que Dieu demande, eh bien, dans le texte que j'ai lu, il est centré sur la volonté de Dieu. En fait, si je voulais dire ce qu'est le sacrifice, c'est vivre. Vivre selon la volonté de Dieu. Vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Et je pense que là, il y a quelque chose à vraiment réfléchir, méditer. Parce que vivre, accomplir la volonté de Dieu ne s'arrête pas à faire juste des trucs chrétiens. Lire ma Bible une fois par jour, prier une fois par jour, aller à l'église une fois par semaine, et puis on peut se dire, voilà, j'ai fait la volonté de Dieu. Non, ça va beaucoup plus loin que cela. Vivre la volonté de Dieu, c'est vivre ce que Dieu a mis en toi, c'est vivre ce que Dieu te dit chaque jour. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant, et qui t'emmène plus loin. Et chacun, avec sa vie et ses forces, justement, de vivre selon la volonté de Dieu, alors, si je donne un exemple très concret, des jeunes chrétiens qui se gardent purs pour le mariage, il y a un sacrifice parce que dans la vie, dans le monde actuel, ça ne se fait pas. Et c'est un sacrifice. Et Dieu le voit. Après, il y a nos sacrifices de prière, nos sacrifices de piété, nos sacrifices peut-être de dîmes aussi. Tout ça, ce sont des sacrifices. Et Dieu le voit. Mais le but ultime de toutes ces choses, c'est que sa volonté soit faite dans notre vie. Et ça, il y a une puissance énorme là-dedans. Et c'est pourquoi il y a aussi une adversité par rapport à cela. Il y a un combat, c'est un réel combat de vivre selon la puissance de Dieu. Et dans un sens, ce n'est pas accessible à notre être naturel. Ce n'est pas avec nos forces naturelles que nous pouvons pleinement vivre ce sacrifice, la volonté de Dieu. Et dans ce texte, on voit qu'il nous faut être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformer, c'est un mot qui est assez fort, qui apparaît à trois autres endroits de la Bible. Quand Jésus est transfiguré sur la montagne, il est transformé. Et puis en 2 Corinthiens 3, 18, quand Paul nous dit que nous sommes transformés à l'image de Dieu, de gloire en gloire, par l'Esprit. Et dans tous ces textes, on voit que cette transformation n'est pas quelque chose de terrestre, mais c'est quelque chose de céleste qui doit venir dans notre vie pour transformer les choses. Il y a une œuvre du Saint-Esprit, une œuvre de l'Esprit puissante qui nous façonne à l'image de Jésus-Christ, à cette image dans laquelle nous sommes formés, que Dieu nous recrée. Eh bien, c'est une transformation qui est nécessaire et qui est puissante, qui est profonde. Il y a quelque chose de céleste qui descend. Et cette transformation vient toucher non pas nos comportements extérieurs, non pas ce que nous faisons, mais elle vient toucher en premier lieu ce que nous pensons. Le renouvellement de l'intelligence. Parce que, comme dans toute repentance, ça ne commence pas par des actes. Il ne s'agit pas de changer ce que nous faisons, même si c'est la finalité, c'est une des choses, il faut que ça arrive jusque-là, mais c'est de changer notre manière de penser. C'est changer notre manière de voir et de comprendre la réalité qui nous entoure. Et à partir de là, je me mets à changer la manière de ce que je fais et mes actes. Et c'est profond, c'est entier. Et cela est un combat. Ce sacrifice-là est un combat. Parce que le monde qui nous entoure est plein de la volonté des hommes et même de la volonté du diable, qui va à l'encontre, qui s'oppose, qui veut anéantir la volonté de Dieu. J'ai un deuxième texte à vous proposer qui me parlait par rapport à cet aspect-là, c'est en Marc 8, et je vais vous le lire, Marc 8, 31 à 33. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui commence à leur dire qu'il faut qu'il aille à la croix. Et juste avant, Pierre avait fait une magnifique déclaration quand Jésus avait demandé à ses disciples « Mais qui suis-je ?» Et là, Pierre a une révélation et puis il dit « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc Pierre, là, il a eu un renouvellement de l'intelligence super puissant. Et puis, l'histoire continue et je lis « Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. » Il disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et là on voit une chute magistrale d'un grand homme de Dieu, un Pierre qui juste avant fait une proclamation qui est comme une fondation pour l'Église, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce même Pierre, eh bien, devient un instrument du diable. Parce qu'il, par ses paroles, qui sont pleines de bon sens, qui sont pleines d'amour envers Jésus, « Je ne veux pas que tu meures », eh bien, par ses paroles, il tente Jésus pour qu'il se détourne du sacrifice. Il tente Jésus pour que Jésus n'aille pas accomplir son sacrifice à la croix. Et là, on voit toute la possibilité, toute la triste possibilité que nous, en tant que chrétiens, nous avons de nous tromper et de ne pas comprendre Dieu. Et même si nous avons une vie chrétienne florissante avec des très belles réussites pour Dieu, mais nous sommes toujours sujets à l'erreur. Et là, cet exemple est tellement énorme et flagrant, nous sommes toujours en capacité de nous détourner de Dieu, de ne pas le comprendre. Et en ne le comprenant pas, de nous opposer à sa volonté. En fait, Dieu veut être compris. Et ça m'a vraiment pris aux tripes cette semaine, à travers plusieurs textes que je lisais. Je voyais Dieu qui était frustré, qui était triste de réaliser à quel point les hommes ne le comprennent pas. C'est Jésus, en fait, je lisais Marc, et dans les chapitres de Marc, entre 6, 7, 8, 9, on voit Jésus qui a des moments de frustration, des moments de peine, parce que les hommes ne le comprennent pas. Parce que même si les hommes veulent le suivre, des fois il s'adresse carrément à ses disciples, mais ils ne le comprennent pas, parce que leur cœur est dur. Et pour que nous offrions le sacrifice de notre vie, pour que nous offrions une vie qui accomplit la volonté de Dieu et pour que nous allions dans ce sens, nous avons besoin de comprendre Dieu. Et ça nous parle d'intimité. Ça nous parle de ne pas nous satisfaire de juste les vérités qu'on connaît et qu'on applique. Mais il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose de l'ordre de la relation avec Dieu qui à travers cela, nous comprenons vraiment la volonté pour le moment, pour cette journée de mon Dieu. La semaine dernière, Alfred nous a encouragés en nous donnant 10 points pour faire un check-up de notre santé spirituelle. Et j'espère que vous avez progressé, j'espère que vous avez commencé à prendre les remèdes qu'il a indiqués sur les 10 points. Et je voulais vous proposer pour vivre ce renouvellement de la pensée, pour vivre cette volonté de Dieu que nous comprenons, un trio gagnant, au moins dans ma vie, c'est un trio gagnant. C'est d'abord méditer la parole de Dieu. C'est rencontrer Dieu à travers la parole, à travers votre méditation, votre lecture de la Bible. Non pas juste une lecture pour lire, mais une lecture pour rencontrer Dieu, pour entendre à travers la parole la voix de Dieu dans votre cœur. Et vous savez, cette parole, c'est une épée de l'esprit. C'est une épée qui va à la division de votre âme et de votre esprit. C'est quelque chose qui va très profond, qui met une semence profondément en vous. Et puis, un deuxième point, c'est prier. Mais prier en langue. Parce que vous savez, la prière en langue, c'est quelque chose qui est fou pour l'homme naturel. C'est quelque chose qui n'a pas de sens pour l'homme naturel. Et là, c'est un vrai sacrifice. Le sacrifice de la raison. Le sacrifice de notre intelligence naturelle. Pourquoi cela ? Pourquoi Dieu demande cela ? Parce que, en fait, ces voies ne sont pas limitées aux choses naturelles, mais sont bien plus au-dessus. Elles sont tellement au-dessus de ce que l'homme naturel peut percevoir. Et nous avons besoin, pour y accéder, de le comprendre en esprit. Et pour y accéder, la prière en langue est vraiment un moyen puissant. Et moi-même, je me considère comme une personne qui a un besoin intellectuel fort. On me dit depuis que je suis tout petit que bon, je suis un intellectuel. Voilà, j'y peux rien, je suis désolé, excusez-moi. Et en fait, j'ai compris que dans ma vie, le parler en langue est une clé. Parce que si je ne le pratique pas, je vais mettre toute ma confiance dans mon intelligence naturelle. Et ça, Dieu ne le veut pas parce que ses voies dépassent. Ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est que les voies de Dieu sont au-dessus. Et pour les saisir, pour capter cette volonté de Dieu qui parfois s'éloigne de notre intelligence naturelle, parce que Dieu parfois nous demande des choses folles pour l'homme naturel, mais sages pour lui, eh bien nous avons besoin d'accéder à autre chose. Et le parler en langue est puissant pour cela. Et puis enfin, un troisième élément qui fait le trio gagnant pour moi, c'est jeûner. C'est-à-dire mettre à part son corps un moment pour fortifier son esprit. Et ça marche vraiment. Alors je pourrais en parler, mais ce n'est pas le thème ce matin. Mais simplement, je vais vous dire, essayez. Un jeûne une fois par jour, une fois par jour si vous voulez, une fois par semaine ou quelques 3 jours pendant l'été, essayez et vous verrez. Et je vais apprendre un dernier texte pour terminer ce message qui m'a vraiment percuté avec cette réflexion. C'est en Hébreux 10, et je vais le lire, Hébreux 10 de 5 à 7, c'est Jésus qui parle à son Père, qui parle à Dieu. En entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et j'ai été frappé parce que dans ce texte, on retrouve les trois mots, « sacrifice, corps et volonté ». Et c'est Jésus-Christ qui offre le sacrifice, le vrai, l'ultime, par un corps que Dieu lui a formé. Pourquoi ? Pour accomplir la volonté de Dieu. Et je vois dans ce texte une confirmation du fait que Dieu nous appelle à suivre Jésus-Christ. Et que quand Dieu nous appelle à faire un sacrifice, à lui offrir nos vies, nos corps en sacrifice, c'est pleinement pour suivre, pour marcher dans les pas de Jésus-Christ. Et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous le savons. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il a été rendu utile. Ça n'a pas été une perte pour l'humanité d'un grand homme sage, mais ça a été rendu puissamment utile parce qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, c'est le pardon rendu possible pour des milliers, pour toute l'humanité pécheresse, pour toute une humanité séparée de Dieu, pour vous et moi. Cela a été rendu utile par la perte de Jésus-Christ, par son sacrifice, par quelque chose où on aurait pu dire, mais c'est un échec, son ministère est un échec, sa vie est un échec, il n'a pas été écouté, on l'a crucifié sur une croix. Dieu a renversé ça et a rendu sa mort utile. Et paradoxe de tout, sa mort donne la vie. Ça, c'est Dieu. Et puis, j'ai pensé aussi que nous avons un corps et que Dieu nous invite à le donner, mais que l'Église aussi est le corps de Christ. Et que l'Église est aussi un corps formé depuis le départ de Jésus-Christ, depuis sa résurrection. Eh bien, ce corps est formé pour être un sacrifice pour le monde. Et souvent, je me dis, mais quelle est la suite de Jean 3,16? Vous savez, ce verset qu'on apprend tout petit quand on grandit dans les églises, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et la suite de Jean 3,16, on pourrait dire, bon, c'est Jean 3,17, mais c'est que l'Église, c'est que le chrétien est donné par Dieu au monde. Parce que Dieu aime tellement le monde qu'une fois qu'il nous sauve, il ne nous retire pas avec lui dans le ciel. Mais il nous fait rester là. Il nous fait rester dans un monde parfois avec des problèmes, des douleurs, etc. Pourquoi ? Pour que nous puissions continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Pour que nous puissions continuer sur la base de cette puissance du salut qu'a donné Jésus-Christ. Que nous puissions continuer l'œuvre du Père qui aime ce monde et qui donne maintenant, aujourd'hui, son Église. Le corps de son Église, le corps du Christ au monde qu'il aime. Alors, voilà, je voulais vous amener cette parole qui m'a interpellé et nous dire, déjà nous en tant qu'Église, prenons conscience que nous sommes appelés en tant qu'Église à être un sacrifice et que dans les circonstances qu'on a, on ne sait pas les besoins qui vont être révélés, mais il y en aura, très certainement. Et soyons prêts, tenons-nous prêts, préparons-nous pour nous donner en sacrifice pour ce monde que Dieu aime et pour pouvoir agir, pour pouvoir manifester la volonté de Dieu ensemble, en tant que corps de Christ. Et puis, j'avais vraiment à cœur pour vous qui avez le sentiment de vivre du sacrifice dans votre vie, peut-être des choses injustes, des choses qui vous mettent en colère, des choses qui vous font peiner, eh bien, de placer, comme cet esclave dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 6, de placer votre vie comme un sacrifice pour Dieu. Et de voir ce sacrifice qui est peut-être quotidien pour vous, mais de le voir, de l'inscrire, de le placer comme un sacrifice pour Dieu. Et de voir que ce que vous faites avec peut-être larmes, eh bien, dites-vous que vous le faites pour Dieu. Et Dieu va le rendre utile, Dieu va le rendre fructueux, comme il l'a fait pour Jésus-Christ à la croix. Il y a un fruit énorme, et ce sacrifice-là deviendra une clé. Vos sacrifices, quand vous les concevez comme cela, j'ai cette conviction ce matin, c'est que vous transformez ces sacrifices en clé pour l'avenir, en clé pour quelque chose qui va s'ouvrir et qui va être puissant pour le reste. Voilà, offrons nos vies en sacrifice. Et je voudrais juste prier pour terminer. Seigneur, nous ne comprenons pas, nos intelligences peut-être naturelles résistent à cette idée, mais tu nous appelles si clairement en Romains 12, à offrir nos vies, nos corps comme un sacrifice vivant pour toi, saint et agréable. Et Seigneur, je prie, c'est que tu amènes cette vérité et tu la révèles à nos cœurs. Et tu nous aides à la vivre, tu nous aides à la pratiquer. Et que par cela, Seigneur, nos vies soient libérées de tous ces sentiments d'injustice, de toute cette colère, de toutes ces blessures en nous à cause des divers sacrifices qui sont dans nos vies ou qui peut-être vont venir en nous. Seigneur, je prie que tu renouvelles cette pensée en nous et que tu places en nous cet esprit de Jésus-Christ qui s'est donné par amour. Je prie que l'amour imprègne nos cœurs et que nous soyons ensemble en tant qu'Église un sacrifice puissant dans cette région, à Montpellier, à Sète et dans tout l'Hérault. Que Seigneur, ton Église soit cette Église puissante qui marche sur les pas de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as appelés et tu es puissant pour racheter nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.